BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichet.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Cette semaine, on va mettre à l'honneur le produire en France avec tout d'abord un zoom sur le groupe Altair, un groupe qui fabrique dans le Nord des produits d'entretien, dont la gamme Starwax, mais aussi depuis quelques semaines, toute la gamme Briochin. Ces dernières années, Altair a aussi acheté des marques espagnoles et néerlandaises. Son objectif, devenir le numéro 1 européen de l'entretien durable. Mon premier invité est Étienne Sassilotto, le président directeur général du groupe Altair. L'industrie en France est aussi de la tech et de la tech de haut niveau. On parlera de Diamfab, une jeune entreprise grenobloise qui fabrique des diamants, alors pas de la joaillerie, mais des diamants de synthèse dans le domaine ô combien crucial des semi-conducteurs. On vous expliquera tout dans quelques instants. L'entreprise vient d'investir dans de nouveaux locaux près de Grenoble. Mon deuxième invité est Gauthier Chicot, le président et cofondateur de Diamfab. Enfin, nous parlerons de l'Alliance du fabriqué en France, un rassemblement de multiples bonnes volontés pour trouver des solutions faciles, concrètes et de bon sens pour développer le Made in France industriel. On en parlera avec Olivier Ducatillon, le président de l'Union des industries textiles et l'un des porte-parole de cette Alliance du fabriqué en France. Il est donc important de rappeler qu'en France, des usines se créent ou se développent, et c'est ce que l'on fait régulièrement sur BFM Business. Bonjour Étienne Sassilotto.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes donc le PDG du groupe Altair qui fabrique des produits d'entretien. Et dans votre cas, votre actualité, c'est une production à Noyelles-lès-Seclin, dans le Nord, qui vient de s'élargir donc à la gamme Briochin. Sur ce site, donc, vous produisez déjà la gamme Starwax. Donc on va expliquer un peu cette nouvelle ligne de production dans quelques instants. Mais d'abord, nous rappeler ce qu'est le groupe Altair.
Oui, alors vous l'avez dit, Altair, le nom est sans doute moins connu que le nom de nos marques. Nous avons entre autres marques Starwax et Briochin, vous les avez citées. Donc c'est un groupe qui est né en 1946 dans les Hauts-de-France avec la marque Starwax, qui a été inventée par les frères Brunel, et puis qui, tout au long du XXe siècle et de ce début de XXIe siècle, s'est développée à la fois par croissance organique et par acquisition. Vous avez notamment mentionné les acquisitions que nous avons faites en Espagne en 2017 ou la dernière, la plus récente, aux Pays-Bas en 2024.
Et donc il y a eu aussi, je crois, en 1965, la création de Capros et les insecticides.
Absolument.
Donc ça vous fait, voilà, donc on voit une infographie, donc de la croissance externe depuis les années 2010. Ça vous fait un total de combien de marques quand on ajoute les marques françaises, les espagnoles, les néerlandaises?
Alors on a un portefeuille de 10 marques clés, dont 4 qui sont particulièrement importantes pour nous, qu'on appelle nos love brands, parce que ce sont des marques avec lesquelles les consommateurs ont une relation tout à fait privilégiée. Vous en avez cité.
Alors, on les a sur l'écran. On a Starwax, on a Briochin, Capro, Harris aussi, Marcel Green Soap, Sinto, Mistol, Ten. Voilà, ça fait partie de vos principales marques de votre portefeuille.
Hein. Voilà, tout à fait.
Et donc, ça représente un chiffre d'affaires de combien quand on voit l'intégralité de vos activités?
On fait environ 200 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires, dont à peu près 70% en France, dont 70% avec les fameuses love brands dont je vous parlais.
Ouais, ouais.
Voilà, et on a à peu près 500 collaborateurs, là aussi, dont 70% sont en France.
Le siège reste en France, hein, c'est ça, le siège est bien resté en France.
Absolument, les racines du groupe sont dans les Hauts-de-France, comme je l'ai précisé. Nous sommes très attachés à nos racines, et donc aujourd'hui, le siège du groupe est à Ouescal. Et nous avons des implantations à Aubagne et à Saint-Malo.
La marque en elle-même, elle s'appelle donc Altair. Alors j'ai creusé un peu, je ne savais pas, c'est une des étoiles les plus brillantes de la voûte céleste, hein, c'est bien ça?
Absolument.
Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une étoile qui rayonne sur le monde de l'entretien durable?
Il y a une symbolique assez forte. On essaye de rayonner effectivement à notre échelle sur le monde de l'entretien durable. Mais l'étoile Altair, qui est très visible, et notamment en été, c'est aussi un cap. Qui nous rappelle d'où on vient, mais aussi où on veut aller, et qui nous rappelle nos piliers stratégiques, nos marques, le fait que nous sommes un des rares intervenants à couvrir tous les canaux de distribution, à la fois généralistes comme hypermarché, supermarché, mais aussi spécialisés comme les grandes surfaces de bricolage, et bien sûr le e-commerce. les traditionnels aussi, puisque Star Wax est toujours présent dans pratiquement toutes les drogueries de France et de Navarre. Et puis notre troisième pilier, très important pour nous, notre engagement en matière de responsabilité sociétale et environnementale.
Je reviens sur les marques. C'est quoi votre marque star en termes peut-être de chiffre d'affaires ?
Écoutez, la question est dans la réponse, star comme Star Wax. Mais en réalité, on a deux marques qui sont pratiquement au même niveau de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est Star Wax, toujours un peu devant, et Briochin, mais qui s'est beaucoup développé ces dernières années.
Briochin, donc vous l'avez racheté en 2021. Comme son nom l'indique, un Briochin, c'est le gentilé des habitants, enfin ceux qui habitent à Saint-Brieuc. Donc c'est une marque qui est historiquement en Bretagne, qui était produite en Bretagne. Or vous venez de rapatrier la production dans les Hauts-de-France. Comment ça s'est fait ?
Alors le site effectivement dans lequel le Briochin était produit était devenu un peu trop petit, un peu vétuste, et ne présentait pas les caractéristiques pour accompagner Briochin dans sa croissance. Nous tenions absolument à garder la maîtrise de la production de la marque, donc ne pas la sous-traiter. Nous tenions encore plus à ce que Briochin reste made in France. Et il se trouve que nous avons ce site très performant dans les Hauts-de-France. Nous avons investi 35 millions depuis ces 10 dernières années, mais plus spécifiquement pour accueillir Briochin 3 millions dans des nouvelles lignes de production, ce qui nous a permis de transférer l'activité industrielle de Saint-Brieuc à Noyelles-les-Seclins.
Alors, vous parlez de 35 millions d'investissements parce qu'en fait, c'est un ancien site, je crois, Michelin, qui a été réhabilité. Donc, c'est pour ça que ça vous a coûté tant. Il y a eu quand même aussi, je crois, des aides de la région, peut-être d'autres acteurs. Mais ces 3 millions donc dont vous parlez sur ces 35, c'est pour créer cette nouvelle ligne de production. Elle est terminée, elle est effective, ça y est.
Elle est terminée, elle est opérationnelle, ce qui veut dire que dans l'année 2025, la production sur Noyelles-les-Seclins a été doublée. Elle est passée de 10 000 tonnes à 20 000 tonnes.
Et vous voulez faire plus et éventuellement, je crois que vous voulez monter jusqu'à 30 000 si
absolument.
C'est
possible. Absolument, on a calibré les investissements pour anticiper la croissance à venir et on pourra produire dans cette usine 30 000 tonnes, soit à peu près 36-37 millions d'unités consommateurs par an.
Je reviens à Briochin, donc une boîte, on l'a dit, qui était en Ille-et-Vilaine. Est-ce que tout le monde a été rapatrié à Noyelles-les-Seclins ? Je crois que c'est plus compliqué que ça. La production, oui, les ouvriers, non. Et toutes les autres fonctions sont restées en Bretagne.
Alors, toutes les autres fonctions administratives, marketing, support commercial, etc., sont toujours à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Chaque salarié de Saint-Brandan, donc près de Saint-Brieuc, a eu une proposition pour rejoindre le site du Nord. On en a quelques-uns qui ont étudié très sérieusement la question, mais dans leur grande majorité, ils sont restés en Bretagne. Ce qui fait que nous avons recruté, et nous sommes toujours en train de recruter, environ 50 salariés sur le site de Noyelles-les-Seclins.
Pour 2026 ?
Alors, on en a fait à peu près la moitié en 2025. Et la deuxième moitié est prévue pour 2026.
La suite, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a encore d'autres croissances externes que vous avez ? Est-ce qu'il y a des marques que vous avez dans votre viseur ?
Alors, oui.
Mais lesquelles ?
Évidemment, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais de manière générale, notre ambition, c'est de continuer à accroître et de continuer à développer nos belles marques. Beaucoup en organique, notamment dans ces nouveaux circuits, notamment par expansion géographique. Je vous donne un exemple. Depuis que nous avons racheté Briochin en 2021, nous avons lancé la marque en Belgique, en Pologne, en Espagne. Puis il y a peut-être d'autres géographies à venir. Donc ça, c'est un axe de développement très fort. Et puis, il peut y avoir aussi des acquisitions qui, effectivement, nous permettront d'utiliser ce capacitaire excédentaire à Noyelles-les-Seclins et d'aller à terme à 30 000 tonnes.
Dans quelques semaines, je recevrai, je les avais reçus déjà, le groupe Héritage et la marque Bonux. Ils ont relancé cette marque. Donc, un mot sur ces belles marques françaises que l'on connaît tous. Dans votre cas, Briochin, c'est une marque qui parle vraiment à beaucoup de consommateurs. C'est important, quand on se développe, même dans ces années 2020, de se baser sur des marques qui ont un imaginaire et qui sont très appréciées des consommateurs. On ne crée pas de nouvelles marques comme ça. C'est pas si simple que ça.
Alors, c'est pas si facile, effectivement. Ce qu'on voit, c'est que nous, on a un portefeuille de marques, on va dire, patrimonial. Les Français, les consommateurs, de manière générale, ils sont très attachés. Ce sont des marques qui ont une histoire, qui sont ancrées en France et dans leur territoire. Et ça nous semble plus facile, ou en tout cas plus évident, de développer et d'utiliser tout le potentiel, tout le capital de ces marques, plutôt que de créer des marques ex nihilo qui pourraient être perçu parfois comme un petit peu gadget ou un petit peu artificiel.
En un mot encore, c'est compliqué de faire du Made in France. Ça va faire une transition toute trouvée avec mon invité suivant. Il y a trop d'obstacles où vous vous dites ça vaut le coup de se battre.
Écoutez, je pense que le site de Noyelles-les-Seclins et l'histoire d'Altaïr démontrent au contraire que c'est possible de combiner Made in France, performance économique et le plus haut niveau d'exigence en matière environnementale et sociétale. En tout cas, nous, c'est notre ambition. Pour l'instant, on y arrive. On y arrive grâce à un écosystème qui, en France, bien qu'il soit souvent critiqué, en tout cas dans les Hauts-de-France, est favorable. Vous l'avez mentionné, on a eu l'aide de la métropole européenne de Lille, on a eu l'aide de la région pour une partie des investissements qu'on a réalisés à Noyelles-les-Seclins. Et donc, moi, je reste très optimiste sur l'avenir du Made in France.
Eh bien, c'est ce qu'on aime entendre dire dans cette émission. Évidemment, Olivier Ducatillon, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Ça vous parle tout ce qu'on vient de dire?
Moi je suis comblé aussi d'entendre quelqu'un du Nord. Moi je suis du Nord moi également, donc forcément, et qui fait l'apologie, puis de voir une entreprise qui va bien, une entreprise qui a fait des acquisitions, et c'est effectivement, on est tous convaincus que c'est possible. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à modifier, il y a des mentalités parfois qu'il faut savoir bouger par rapport au nouvel environnement qui est le nôtre, et c'est ce à quoi on va s'atteler.
Vous vous attelez depuis de très nombreuses années. Je rappelle que vous êtes le président de l'UIT, l'Union des industries textiles, qui fédère plus de 2000 entreprises françaises du secteur. Vous êtes aussi membre du COMEX à la CPME en charge du Made in France. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que cette semaine, vous avez lancé, avec d'autres partenaires, on va en parler, l'Alliance du Fabriqué en France, de promesses, soutenir la souveraineté industrielle en France et proposer surtout des solutions, des actions de bon sens et faciles à mettre en place. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'est l'Alliance?
C'est parfait, j'ai plus rien à dire. Non, on voulait surtout pas, on veut pas faire une structure rajouter quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'assez informel. La chose très nouvelle, c'est que vous allez avoir un syndicat patronal, puisque c'est une initiative de la CPME, et des syndicats de salariés qui sont réunis ensemble pour la même cause, ce qui est pas tout souvent le cas dans notre pays. Donc là, on est pas peu fiers d'avoir cette façon de faire qui doit changer les choses pour que le Made in France dépasse notre écosystème et soit diffusé au plus grand nombre, et qu'il y ait une prise de conscience chez tout le monde, donc dans la population, donc chez les salariés aussi, représentés par ces syndicats, que fabriquer en France, c'est la condition, le préalable pour pouvoir contribuer au financement de notre modèle social. Il faut recréer de la valeur sur le territoire.
C'est exactement ça, parce que vous aviez commandé au nom de l'UIT à KPMG une étude sur les retombées économiques et fiscales du Made in France. Parlez-nous des retombées. Quand on produit en France, ça a évidemment des retombées économiques et fiscales.
Parce que même si récemment, on parle beaucoup de RSE, donc il y a des critères RSE, surtout environnementaux, qui ont été intégrés dans les cahiers des charges pour la commande publique, avec des points bonus à gagner en fonction de l'énergie, de ce que vous utilisez, l'impact carbone. Simplement, nous, on a fait une étude sur un échantillon de 66 entreprises, donc avec KPMG, d'étudier le scénario où un marché public va commander tout directement depuis l'étranger en import, contribution au modèle social, zéro, en dehors des droits de douane, on va dire ça. Il n'y a rien qui retombe ni dans les caisses de l'État, ni dans l'économie locale. Si vous faites un scénario le même auprès des échantillons qu'on a eu, enfin des entreprises qu'on a eues, avec 60% de valeur ajoutée sur le territoire, donc de production sur le territoire, il s'avère que pour le même chiffre d'affaires, dans le premier cas, vous n'avez rien qui retombe sur le financement du modèle et qui ruisselle dans l'économie locale. Sur le deuxième cas, 84% du chiffre d'affaires retombe retombe soit directement, soit indirectement dans l'économie des territoires, dans les caisses de l'État directement via les charges sociales et la TVA, mais aussi dans tout le ruissellement indirect sur les coûts que sont en train, que les dépenses qui sont faites pour la sous-traitance, les services. Ça fait 84%. Et nous, ce qu'on demande, c'est que le seul critère ne soit pas un critère prix, parce que malgré tout ce qu'on dit, c'est quand même aujourd'hui le critère le plus important dans la commande publique. Nos entreprises ont besoin de commandes. La commande publique, ça peut, selon les chiffres, entre 200 et 400 milliards par an. Ça ferait beaucoup de bien pour nos entreprises de pouvoir récupérer ne serait-ce que quelques pourcents de cette commande publique qui, malheureusement, parfois part à l'étranger, souvent part à l'étranger.
On y vient, parce que donc voilà, c'est la première phase de votre plan d'action. Plus de commandes publiques, on en parle dans un instant, plus de formation et plus d'épargne. Les commandes publiques, vous avez dit entre 200 et 400 milliards d'euros, c'est ce que vous nous avez dit. Et vous m'aviez dit, en préparant cette émission, que seuls 22% des acheteurs public, donc en charge de ces achats, choisissent le fabriquer en France. Pourquoi on est aussi faible sur ce chiffre-là?
Alors en France, on a un défaut, c'est qu'on aime bien être les premiers de la classe, on aime bien laver plus blanc que blanc, et on veut être vraiment toujours les premiers et toujours rien avoir à se reprocher. C'est vraiment notre défaut majeur. Ce qui veut dire que par rapport à des directives européennes très strictes sur les marchés publics, et la spécificité française qui veut que l'acheteur public, seul pays en Europe, est pénalement responsable de son achat, ça fait que vous avez beaucoup d'acheteurs publics qui sont hyper frileux et qui vont surtout pas faire le petit pas de côté ou interpréter ou être borderline pour essayer de mettre en valeur des choses qui pourraient flécher davantage. On a une énorme différence entre le fléchage allemand, italien, espagnol et le fléchage français vers une production locale. Je peux vous dire qu'encore une fois, c'est ça qui ferait la différence au niveau de notre économie et de notre modèle social.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça fait partie des pistes d'action de cette alliance du fabriqué en France. Alors, ou de mieux.
Ce qu'on peut faire, déjà, ce qu'on veut faire dans cette alliance, on veut faire des choses réalistes, qui soient réalisables dans un temps acceptable et qui ne coûtent pas grand-chose. Puisque ça, on le sait, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc ce serait facile d'avoir des plans en demandant des milliards. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est de l'audace, du courage. Il faudra qu'il y ait peut-être un ou deux ministres qui viennent appuyer notre démarche auprès des acheteurs. Et les acheteurs, on est tout à fait prêts à lancer une vaste plan de formation auprès de ces acheteurs dans chaque territoire, en identifiant les savoir-faire qui pourraient répondre à des marchés publics, en essayant de les éduquer, de faire des speed dating, d'essayer de les former, et en essayant d'intégrer, qui est le gros objectif, d'intégrer dans les cahiers des charges tout ce que j'appelle les leviers majorants. À savoir que pour avoir des bonus si vous fabriquez en France, le fait, par rapport au résultat de cette étude, de dire que fabriquer en France, ça contribue à financer notre modèle social, c'est que dans le RSE, il y a le S, et que ça soit considéré comme un facteur qui mérite un bonus, parce que c'est, d'un point de vue sociétal et social, le financement de notre modèle social doit être pris en compte dans les marchés publics. C'est notre demande en tous les cas.
Il nous reste assez peu de temps. Une autre mesure phare, éventuellement, pour améliorer les actions des commandeurs publics?
L'autre, il y en a énormément de mesures phares, hein, mais celle qui est en amont des acheteurs et de la commande, avant de les éduquer, de les évangéliser, c'est l'identification des savoir-faire sur le territoire. Et c'est ce, grâce au réseau de la CPME qui est très présente dans toute la France, d'identifier nos pépites, nos savoir-faire et les mettre en contact et leur permettre de pouvoir candidater pour ces marchés publics. Elles ont besoin d'une chose, les entreprises aujourd'hui sont des commandes. Donc on est là pour ça.
Donc on n'a pas le temps, mais le plan comprend donc aussi des actions simples et de bon sens pour améliorer la formation, la mise en adéquation entre les besoins des entreprises et la formation, mais aussi comment mobiliser l'épargne pour la réindustrialisation. Une toute dernière question. Le fil rouge de ce que vous me dites, c'est du bon sens. On a su mettre du bon sens dans la reconstruction de Notre-Dame. Est-ce qu'il faut mettre du bon sens de plus en plus dans les chantiers? Un des prochains gros chantier, ça va être les Jeux Alpes 2030. Est-ce que c'est ça qui est important?
C'est exactement ça, et c'est un des arguments qu'on a. On a été capable pour Notre-Dame et pour les JO 2024. Pourquoi on ne pourrait pas le faire sur quelque chose qui devient une cause nationale? Notre modèle social, on a vu, il va falloir vraiment se retrousser les manches pour le financer. Donc, on va y arriver. Les JO 2030, c'est une autre bonne illustration. On est déjà en train de préparer pour que ces JO soient peut-être, si possible, les JO du fabriqué en France également.
Merci Olivier, on va poursuivre avec cette envie et ce besoin de créer de l'activité dans l'industrie en France. Avec vous Gauthier Chicot, bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le président et cofondateur de Diamfab, une deep tech que vous avez cofondée en 2019 avec Khaled Drich dans la région de Grenoble, à l'origine grâce à l'Institut Néel du CNRS donc à Grenoble. Votre ambition, elle est claire, créer une filière d'excellence du diamant semi-conducteur en France, le semi-conducteur ultime selon vous. Dites-nous en termes techniques simples ce qu'est ce diamant semi-conducteur.
Peut-être, oui, avant de rentrer dans le diamant semi-conducteur, il faut peut-être rappeler ce que c'est un semi-conducteur. Donc, c'est un matériau qui permet de fabriquer des composants. Donc, c'est vraiment le cœur du réacteur, du composant, si on peut dire. Et jusqu'à peu, on utilisait principalement du silicium et que du silicium. Et les usages ont changé. On est en train d'électrifier une grosse partie de nos usages et de notre utilisation. Les véhicules électriques, c'est un bon exemple. Et donc, on a besoin de gérer de plus en plus d'énergie électrique. Et le silicium, en fait, a montré ses limites pour gérer cette énergie et la gérer efficacement. Et c'est pour ça qu'on a cherché d'autres matériaux pour aller au-delà de ces limites en termes d'efficacité, de robustesse. Et donc le diamant, effectivement, c'est un remplaçant au silicium sur ses applications de gestion d'énergie électrique, puisqu'il est considéré comme le semi-conducteur ultime pour être ultra efficace quand on va faire des conversions, et puis aussi très robuste dans des environnements extrêmes de radiation, de
chaleur,
de température,
ouais.
Pour le spatial, le nucléaire, tous ces usages stratégiques qui sont relativement nouveaux. On peut parler du quantique aussi. Et donc, nous, concrètement, on synthétise du diamant et on vient le fonctionnaliser en même temps, on vient le doper, comme on dit, on lui donne des propriétés électriques ou quantiques pour en fabriquer des composants derrière.
Et ça, vous êtes les seuls à le faire ou est-ce qu'il y a de la concurrence mondiale là-dessus?
Alors, on n'est pas les seuls, on est les seuls à maîtriser cette synthèse de diamant avec cette très haute qualité et justement ce niveau d'enrichissement pour lui donner ses propriétés électriques. Et ce qui est intéressant, c'est que le diamant, c'est pas juste un matériau qui est utilisé pour l'électronique de puissance, on le connaît pour la joaillerie. Ça a plein de facettes, le diamant. Alors, pour faire un petit clin d'œil aux facettes d'un diamant pour
d'un
la joaillerie.
Un diamant, ouais.
Ça peut être utilisé dans un tas d'autres applications et ça a notamment été utilisé comme outil de coupe. Ça a des propriétés optiques et justement, là, on arrive dans l'ère ultra technologique du diamant. Et nous, on a cette maîtrise particulière de synthétiser des couches fines de diamant de quelques micromètres. De très haute qualité pour l'électronique de puissance et les applications quantiques.
Et quand je vous écoute, deux enjeux quand même très, très forts, les enjeux de souveraineté face aux États-Unis et face aux pays asiatiques, et les enjeux aussi de moindre utilisation des terres rares.
Oui, alors c'est effectivement, il y a eu une dépêche il y a peu de temps là, où on a appris que les États-Unis et le Japon envisageaient la production de diamants dans le cadre d'un plan d'investissement de 550 milliards. Donc, c'est un des premiers projets qui est peut-être annoncé. Et effectivement, ils font ça pour s'affranchir de la dépendance à la Chine. Maintenant, si on regarde ce qui reste comme autre continent, il y a l'Europe. Et en Europe, on n'a pas à rougir sur la maîtrise technologique qu'on a de cette technologie, qui offre aussi une vraie opportunité pour réindustrialiser des technologies dans le semi-conducteur. Et notamment, comme vous le mentionnez, c'est que le diamant, c'est du carbone, c'est des atomes de carbone. Nous, on synthétise du carbone avec du méthane comme source, donc CH4, qui est un gaz quand même relativement abondant.
Ouais.
Donc en fait, on peut fabriquer ce matériau à forte valeur ajoutée en France sans être dépendant de terres rares, donc avec des ressources qui ne sont pas limitées. Et le tout en étant compétitif, parce que justement, on apporte beaucoup de valeur et c'est un matériau qui va apporter beaucoup de performance aux composants électroniques.
On va parler d'argent et de développement. L'un ne va pas sans l'autre. Une levée de 8,7 millions d'euros en mars 2024, notamment auprès d'Acerion Venture, de BPI France, plus des fonds à la fois, encore une fois, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole de Grenoble. À quoi vous ont servi ces 8,7 millions d'euros?
Alors, ça nous a servi, on va dire, à sortir la techno du laboratoire, parce qu'on est issu du CNRS, comme vous le mentionnez. Et donc de créer ce qu'on appelle une ligne pilote ou une base industrielle, qui est en fait les prémices de l'industrialisation de la technologie. Donc on a construit, on a aménagé un bâtiment dans lequel on a fait une salle blanche, donc une salle où l'environnement est contrôlé en termes de température, d'hygrométrie et surtout de poussière. Il y a 100 fois moins de poussière que dans l'air ambiant.
C'est à Fontaine, près de Grenoble, voilà. Ouais.
Et c'est dans cet environnement très propre qu'on vient synthétiser le diamant, puisqu'en fait, on fait pousser du diamant par couche atomique, donc on a besoin d'avoir l'environnement le plus propre possible.
Et donc là, vous êtes en phase de pré-industrialisation, et la phase d'industrialisation, elle est pour quand?
Alors cette phase de pré-industrialisation, elle est un petit peu mixte, c'est-à-dire qu'on va commencer à produire des wafers, comme on les appelle, ces galettes de diamants semi-conducteurs. J'en ai ramené.
Voilà, laissez là quelques secondes qu'on puisse faire le plan.
On va produire des wafers pour des marchés de niche, des premiers marchés où on va pouvoir produire assez vite. Et puis justement stabiliser les process pour les autres marchés, les marchés stratégiques, donc tout ce qui est applications quantiques, spatiales et nucléaires qu'on va adresser à l'horizon 2028, et les gros marchés justement de la gestion de puissance pour l'automobile, l'alimentation des data centers, le réseau électrique, ça sera à l'horizon 2030.
Et donc, votre modèle économique à vous, c'est de vendre ces plaques, ces wafers, ou est-ce que c'est aller jusqu'au bout en produisant à terme vous-même tout le composant électronique dans sa globalité ?
Encore une fois, on a un modèle un peu dual, c'est-à-dire que notre corps de métier, c'est la synthèse du matériau, de ces wafers, de ces couches dopées sur ces wafers. Pour que ça accélère l'adoption, on doit aussi fabriquer des composants pour montrer ce que le diamant a dans le ventre, si on veut dire. Donc aujourd'hui, on fait les deux, et on travaille justement en partenariat avec des industriels pour qui on développe des composants spécifiques. Donc on peut citer Schneider Electric, Soitec, ST Microélectronique ou encore Murata, qui ont identifié le diamant comme étant un matériau qui pouvait avoir des intérêts pour les produits qu'ils développent. Nous, on a ce savoir-faire matériau, et donc on va faire des prototypes de composants. Donc on a ce modèle un peu entre les deux, de savoir-faire à la fois le matériau et le composant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi cette maîtrise très particulière du diamant.
Il nous reste 30 secondes, Gauthier. Combien d'effectifs à l'instant T, combien de recrutements prévus? Et puis à date, j'imagine, assez peu de chiffres d'affaires?
C'est effectivement pas notre but aujourd'hui. Notre but, c'est stabiliser le process et donc d'être capable de viser les gros marchés qu'on mentionnait tout à l'heure. On est 26 personnes, principalement en R&D, une vingtaine de personnes qui font que de la R&D. Alors, ils font de la R&D, puis le lien avec nos clients, bien entendu, nos clients ou nos partenaires. Et effectivement, des recrutements d'ici la fin de l'année, on va ouvrir une campagne de recrutement d'ici fin 2026.
Eh bien voilà, on voulait mettre à l'honneur différents secteurs. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de La France à tout pour réussir. On a parlé de semi-conducteurs, on a parlé de l'industrie, on a parlé de produits ménagers durables. Merci beaucoup, c'est ça la diversité. La France à tout pour réussir, l'émission, vous la retrouvez en télé, en radio, le site et l'appli de BFM Business. La semaine prochaine, sommaire tout aussi divers, avec des montres françaises créées par deux frères, deux anciens champions français d'escrime, Clément et Auxence Dorigo. On parlera des bougies de la marque Poudrée, des bougies non pas en cire, mais en perles parfumées. Et puis je recevrai aussi Raphaël Rugger. Figurez-vous qu'il a créé, j'adore ce titre, la Fédération Française des Trucs qui Marchent. Ça, c'est un bon résumé de l'émission. Très bon week-end, très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
La France a tout pour réussir sur BFM Business.